Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Thierry Breton, commissaire européen pour le marché intérieur. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Adrien Gindre de LCI.
Bonjour
Adrien. Dans la question en plus, Thierry Breton, c'est Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, qui vous interpellera sur le plan de relance de l'économie européenne adopté cette semaine par les 27. Nous en parlerons bien sûr largement dans cette émission. Vous pouvez réagir en direct sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, hashtag Le Grand Jury. Et vos questions seront posées à notre invité à la fin de l'émission dans Questions Nettes. Alors Thierry Breton, vous êtes donc celui qui représente la France à la Commission européenne depuis le 1er décembre dernier et votre portefeuille est très large. La défense, l'espace, mais aussi et surtout la politique industrielle et le numérique, deux secteurs qui sont essentiels dans la crise inédite que le monde, que l'Europe traverse aujourd'hui. Sur ce dernier point sur le numérique, nous vous écouterons avec intérêt sur le traçage. L'Europe va-t-elle défendre le principe d'une application téléphonique pour enrayer la propagation du coronavirus? Ça fait débat chez les proches d'Emmanuel Macron, dont vous êtes Thierry Breton. Autre mission qui est la vôtre donc, les industries qui pour beaucoup ont disparu de notre continent. Alors faut-il relocaliser l'industrie pharmaceutique par exemple avec une vraie filière européenne pour ne plus dépendre de la Chine? Et pour relancer la machine économique, nos usines, vous soutenez Thierry Breton l'idée d'une dette mutualisée européenne, des corona bonds en quelque sorte pour relancer l'activité économique. Donc ce n'est pas gagné tant l'Allemagne est opposée, mais après tout rien n'est impossible quand on sait que vous-même Thierry Breton, quand vous étiez ministre de l'économie entre 2005 et 2007, eh bien vous étiez un ardent pourfendeur d'une dette trop élevée. Vous avez même écrit un essai intitulé Anti-dette en 2007. Alors avez-vous aujourd'hui changé d'antidote à la crise? Justement, nous en parlerons. Mais revenons d'abord sur la question européenne de l'aspect sanitaire de cette crise. La première question vous est posée par Adrien Gindre.
Avec cette arme inédite, Thierry Breton, utilisée face au virus, à l'échelle de la Terre, à l'échelle de l'Europe, le confinement, certains pays ont déjà annoncé qu'il serait prolongé, c'est le cas de l'Italie, la France est sur le point de le faire, d'autres ont choisi de ne pas y recourir du tout, c'est le cas de la Suède. On a du mal à comprendre comment une seule union face à un seul et même virus peut être à ce point en ordre dispersé. Est-ce que vous le déplorez ou est-ce que vous considérez que c'est un fonctionnement normal d'avoir des réponses nationales face à une menace globale?
Thierry Breton.
Alors nous sommes devant une pandémie qui est une pandémie mondiale. Et vous voyez, j'allais dire à cette question des frontières que vous me posez implicitement. Pour moi, la seule frontière qui existe aujourd'hui, c'est la frontière entre l'humanité et le virus. C'est la seule frontière. Pour le reste, il y a des dynamiques qui sont différentes par lieu, par géographie. Peut-être du reste, on le regarde, la propagation du virus. Des études scientifiques sont en train d'être menées maintenant que nous avons un peu plus de données. Et nous y contribuons, et j'y contribue, à la Commission européenne. Le virus se propage-t-il de façon différente, selon des températures différentes, des hygrométries différentes, des degrés de pollution?
Donc ça ne vous choque pas qu'il y ait des réponses?
Voyez-vous, aux États-Unis, vous n'avez pas une réponse. Vous avez des réponses par État.
Mais ça ne marche pas très bien.
Par ville, par État.
Oui, mais ça ne marche pas, justement.
Et encore une fois, chacun doit faire les choses dans la façon dont le virus se déploie. Et pour cela, nous avons mis en place à la Commission, alors que je le répète, la problématique de santé est une problématique qui est à la main des États. Et je crois que c'est une bonne chose.
Donc si la France demain annonce qu'elle prolonge le confinement de plusieurs semaines,
c'est une problématique des États et ça doit le rester.
Ça doit le rester.
Bien entendu. Mm-hmm. En revanche, depuis trois semaines, ce qui s'est passé, c'est que les États ont demandé à la Commission, et à moi-même en tant que commissaire au marché intérieur, de commencer à coordonner l'ensemble des équipements nécessaires au personnel de santé, aux soignants, aux patients. Et c'est ce que nous faisons pour avoir une meilleure anticipation. Nous avons donc mis en place des outils, également des modélisations mathématiques. Et c'est vrai qu'on voit des cinétiques différentes, état par état. Il faudra donc que chacun en tienne compte. Et encore une fois, que l'on puisse faire, puisque vous parlez en fait derrière du déconfinement, on n'est pas encore dans la quasi-totalité des états. Il faut bien se le dire aujourd'hui de façon très claire. Nous n'y sommes pas encore. Et on commence uniquement à atteindre quelques plateaux.
Thierry Breton.
Mais il faut, évidemment, que chaque État puisse ensuite anticiper ces pics, et puis on verra ensuite le déconfinement.
Mais vous dites que ce n'est pas une compétence européenne, et pourtant Ursula von der Leyen déclare aujourd'hui, dans un journal allemand, les contacts des personnes âgées avec leur environnement vont devoir rester limités, au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors, donc ça veut dire qu'il y a une prise de position européenne.
Alors, c'est une très bonne chose, bien entendu, parce que je viens de le dire, depuis 3 semaines, nous avons maintenant, et c'est une bonne chose, une coordination et une supervision générale pour pouvoir mieux harmoniser l'ensemble des éléments de santé, y compris lorsqu'il va s'agir du déconfinement. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle s'exprimait. On n'y est pas encore, je le dis, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos par rapport à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Nous n'y sommes pas encore, on commence à peine, et c'est une bonne chose, si je puis dire, pardon de le dire comme ça. On atteint enfin dans certains pays des plateaux. On n'est pas encore dans la décroissance.
Prenons un exemple concret de cette collaboration. Demain, Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français. Il va leur dire probablement combien de temps va encore durer le confinement. Est-ce qu'il faut qu'ils se coordonnent avec les autres chefs d'État et de gouvernement européens? Peut-être que si on disait tout le monde se confine jusqu'à telle échéance, ce serait plus facile à accepter pour les populations.
Je le redis, il faut vraiment voir cette crise pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, encore une fois, y compris au sein même d'un pays, il y a des cinétiques différentes. Il faut tenir compte, là encore, de ce que la science va pouvoir nous apporter pour accompagner, avoir les meilleures informations. Alors, et il faut bien être conscient d'une chose. On ne déconfine pas un continent globalement. La Chine, pour peu que l'on sache la totalité de ce qui s'est passé, je ne porte aucun jugement. Je l'entends que beaucoup.
Un petit peu quand même.
J'entends que beaucoup s'interrogent.
Elle nous a pas dit la vérité.
J'entends que beaucoup s'interrogent sur les chiffres.
Vous vous interrogez.
Je n'ai pas les moyens de le faire. J'entends que beaucoup s'interrogent. Mais la Chine, dans ce que nous savons, c'est évidemment déconfiné par étapes différentes. C'est normal.
Mais
c'est normal, y compris en France, y compris en Europe. En revanche, pour répondre précisément à Guillaume Roquette, parce que c'est une question très importante. Et je voudrais pas. On parle tout de suite du déconfinement, je le dis vraiment, on n'y est pas encore. C'est tout à fait normal de commencer à s'y préparer, parce qu'on va y arriver, bien entendu.
Alors, on va s'y préparer.
Mais ce qui est important, c'est que, évidemment, et je peux en porter témoignage, j'ai assisté vendredi matin à une réunion avec les principaux chefs d'État et quelques commissaires, et on commençait à voir, effectivement, comment on pouvait se tenir au courant, bien informer les uns les autres, du moment où on allait commencer à entrevoir un déconfinement. Donc oui, il y aura coordination.
Et à ce moment-là, Thierry Breton, il faudra certainement porter des masques. Vous commencez à dire, on a demandé à la Commission et à l'Union européenne de commencer à travailler.
Elle le fait,
sur une coordination.
Est-ce que
vous nous dites que demain, c'est l'Union européenne, la Commission, qui seront capables d'organiser la gestion, la distribution, la production des masques, même en Europe, puisque ce qui a fait défaut aussi, c'est la
production. C'est une question très importante.
Ah oui.
Et je voudrais très claire. Pour qu'il y ait là aussi, j'entends évidemment les questions, les interrogations, les critiques aussi. Elles sont légitimes dans des moments de grande angoisse.
Sur la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine, par exemple.
J'ai entendu aussi, et je voudrais que tout le monde en soit conscient, aucun pays sur la planète n'était préparé à une pandémie de cette nature. Je dis bien aucun. Je me souviens moi-même, en janvier, lorsque la Chine nous a appelés au secours, et je le dis clairement, car elle n'était pas prête. Elle n'avait pas les masques, elle n'avait pas les gants, elle n'avait pas les blouses, elle n'avait pas les ventilateurs. Et nous avons répondu présent, car cette crise, je le dis, elle est mondiale et elle ne pourra se régler que par solidarité. Nous avons été solidaires avec le peuple chinois.
Elle a réagi très rapidement, sauf qu'elle a réagi très rapidement.
Nous avons donc envoyé 56 tonnes de matériel à nos amis chinois. Nous leur avons donné 250 millions d'euros pour les aider. Et c'était normal. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes l'épicentre. Entre-temps, la Chine a monté progressivement ses industries, notamment d'équipements de protection des personnels de santé, ces fameux PPE, ces fameux masques que tout le monde connaît maintenant, les FFP2, les masques chirurgicaux, et maintenant commence à les exporter. Dans le même temps, Adrien Gendre, je vais vous dire, on est dans une période très particulière. Voyez-vous, je n'ai pas attendu que la Commission se voit conférer ses pouvoirs de supervision. Dès le premier jour où le virus est apparu en Europe, j'ai moi-même appelé l'ensemble des industriels fabricants de masques pour leur dire « montez très vite en puissance ». Ils ont multiplié par 3, par 4 la production en une semaine.
Les fabricants européens ?
Européens. J'ai ensuite convoqué l'ensemble des industriels du textile. Je voudrais porter témoignage ici du fait qu'ils ont réagi formidablement bien. Que ce soit par exemple des marques, et je vais les citer, parce qu'elles le méritent, comme Zara, comme H&M, comme Vuitton. Ils ont décidé de transformer des lignes entières de production pour produire désormais des masques. Et voyez-vous, l'ambition qui est la mienne, le commissaire européen, c'est que dans quelques mois, nous soyons totalement autosuffisants en matière de masques, et on le sera, comme les Chinois le sont aujourd'hui. Ils ont réussi en 4 mois de passer d'un pays qui était dépendant des autres, un pays qui produit aujourd'hui 150 millions de masques par jour, eh bien, nous le serons. Et pourquoi le serons-nous? Parce qu'il est absolument indispensable.
L'Europe sera autosuffisante en masques.
Mais c'est l'objectif, précisément. C'est l'objectif, et je vais vous dire pourquoi.
Et on a les machines, les usines pour ça.
Mais bien sûr qu'on a les machines, bien sûr. Mais évidemment, il faut avoir ce qu'on appelle les supply chains. Il faut avoir évidemment les produits, on y travaille. C'est l'objectif.
Et on le sera durablement ou provisoirement.
Oui, très bonne question. Il faut l'être, et moi je le dis du reste aux industriels, il faut l'être durablement pour deux raisons. La première, c'est que dans la période de déconfinement, qui va bientôt arriver, Dieu soit loué, eh bien, il y aura une période d'adaptation. Je l'ai dit, la frontière entre l'humanité et le virus, elle se poursuivra. On va cohabiter avec le virus, il sera évidemment moins présent, on l'espère moins virulent, et puis on trouvera des vaccins. Mais entre-temps, il faudra cohabiter, donc il faudra évidemment, certainement, maintenir les règles de distancement social, les règles effectivement qui sont de vivre ensemble, probablement porter des masques dans certains lieux. Donc oui, il nous faut absolument avoir ces équipements. Et puis j'ajoute encore un point qui est très important pour moi. C'est que encore une fois, cette pandémie, elle est mondiale. Et je pense à l'Afrique. Et je sais qu'il est un continent très important et qui m'est cher. Et je peux vous dire qu'on espère tous que la pandémie ne va pas se déclarer ou s'amplifier en Afrique. Mais je sais qu'il y a un moment où il faudra être présent, soyons présents. Et puis peut-être aussi aux Américains qui nous appellent aussi à l'aide.
Thierry Breton, juste sur les masques, la grande réussite européenne, c'est Airbus. Donc on se dit, est-ce que ça peut être l'équivalent d'un Airbus des masques que vous voulez créer, c'est-à-dire une filière totalement indépendante dans plusieurs pays européens pour cette production autosuffisante?
Je viens de vous le répondre et je pense qu'on n'a pas besoin d'un Airbus. Alors voilà, et vous savez, j'ai tellement entendu, et ils avaient raison, vos auditeurs, nos téléspectateurs, dire « Mais enfin, on est capable de faire des Airbus, on peut bien être capable de faire des masques. » Vous l'avez tous entendu. Et ils ont raison. La seule chose, c'est qu'il fallait avoir un outil de production. Et je dirais que l'intelligence et la réponse positive et citoyenne de l'ensemble des industriels qui ont été sollicités, en 24 heures, ils ont répondu pour beaucoup d'entre eux, c'est qu'on a su convertir des lignes, précisément de production, dans le textile pour ça. Donc on n'a pas besoin d'un Airbus. En revanche, pour les respirateurs, la réponse c'est oui. Et je voudrais apporter un autre témoignage ici. On était aussi en manque de respirateurs. Avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, nous avons tous les deux réuni l'ensemble des industriels qui fabriquaient des ventilateurs, des respirateurs en Europe, mais aussi ceux qui pouvaient éventuellement changer leur ligne de production. Je pense par exemple à l'automobile, à l'industrie aérienne, par exemple Safran, qui faisait des masques pour les pilotes de chasse en particulier, par exemple à la Formule 1, qui faisait aussi des masques pour leurs pilotes. Et on a réuni tout ça. Écoutez, c'est très intéressant.
On a bien réagi et on a fait ce qu'il
fallait. Mais je vais vous le dire, parce que là, on a réuni, et autour d'Air Liquide, qui fabriquait 1000 masques par an, eh bien, on a créé un consortium, un Airbus, et dans les 50 jours qui viennent, ils en fabriquent 10 000. Donc vous voyez, les réactions, elles ont été...
Sauf que Thierry, vous comprenez
partout.
Que ceux qui nous écoutent ou nous regardent s'interrogent. On continue à importer des masques de Chine aujourd'hui. C'est d'eux dont nous viennent la possibilité d'alimenter nos hôpitaux avec parfois des masques périmés, c'est ce qu'on entend. Dans 4 mois, ça paraît un délai trop long.
Je disais 50 jours là. On est dans 50 jours, donc 50 jours pour 10 000 supplémentaires. Mais voyez-vous, c'est très intéressant ce que vous
dites. Dans 50 jours, on sera autonome.
On aura uniquement ce simple consortium, mais il y en a partout en Europe qui sont
faits.
Là,
vous parlez des respirateurs, rien que celui-là, vous parlez des masques, vous avez dit 4 mois.
Rien que celui-là, eh bien, vous voyez, c'est intéressant parce que je suis en contact tous les... On fait en gros une fois tous les samedis matins à peu près avec le ministre ou le vice-ministre du commerce extérieur chinois. On a une vidéoconférence tous les deux. Et il me disait l'autre jour que pour pouvoir fabriquer lui-même des respirateurs et pouvoir les réexporter, il avait besoin qu'on augmente notre capacité de faire des éléments clés, des pièces clés, critiques, qu'on les expédie. On est quand même dans un monde où le bilatéralisme fonctionne. Il faut qu'il continue à fonctionner. Je le répète, cette pandémie, on la vaincra ensemble.
Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ce sont les industriels qui s'organisent, vous coordonnez, on n'a plus besoin des États.
Pardon, je dois dire qu'on les a appelés.
ça n'a pas été, et c'est normal, parce qu'il fallait se mettre ensemble, il fallait donner la perspective, il fallait aussi qu'on puisse analyser les besoins, il fallait que j'aie une capacité à leur dire, voilà la profondeur de ce que serait ce marché. Donc non, on a d'abord fait ce travail. À partir du moment où on a eu la supervision, voilà, j'ai pu voir à peu près quels étaient les stocks, quels étaient les outils de production, comment il fallait augmenter la production, donner la profondeur du marché. Et puis quand on a eu ces informations très vite, à ce moment-là, on a pu les réunir et leur dire, écoutez, allez-y, jouez le jeu. Et ils ont joué le jeu.
Alors, sur les frontières.
Oui, à l'occasion de cette pandémie, l'espace Schengen a été suspendu. Les frontières nationales se sont fermées les unes après les autres. En France, c'était lundi dernier. On était parmi les derniers. Est-ce qu'on a trop attendu avant de refermer les frontières, sachant que le virus, il voyage sur les personnes, donc a priori d'un pays à l'autre?
Oui, alors ça a été effectivement, là encore, s'il faut bien dire les choses comme elles sont, la pandémie a pris tout le monde de court, je l'ai dit, je ne vais pas le répéter. Mais vous savez, je ne jette la pierre à personne. Quand on est responsable public, j'ai été ministre, je sais ce que c'est que d'être responsable public, on a évidemment la responsabilité, et surtout sur les aspects de santé de ses concitoyens. C'est vrai, vous avez raison Guillaume Roquette, la réaction de nombre de pays européens a été de fermer ses frontières. Je le prends toujours cet exemple parce que il faut l'avoir aussi en tête pour qu'on voit bien comment les choses fonctionne.
Et vous semblez déplorer ?
Non, je dis que je l'ai compris. De même que l'État de New York a fermé ses frontières, que la garde nationale a barré le pont de Brooklyn pour passer de la ville de New York dans New Jersey. Oui, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu.
Et Emmanuel Macron évoquait que ce soit fermé jusqu'en septembre.
C'est un autre sujet, Adrien Jarl. On va juste terminer sur cet aspect parce qu'il est important. Donc effectivement, on a vu l'Allemagne fermer totalement ses frontières. Je l'ai déploré. Je vais vous dire ce que nous avons fait. La France un peu aussi, mais d'autres pays ont suivi. Eh bien, moi, en tant que commissaire en charge du marché intérieur, j'étais chargé de discuter avec Peter Altmaier, le ministre de l'économie, avec le ministre de la Santé allemand. Et puis on a finalement réussi à les convaincre de réouvrir les frontières. Pareil en France, pareil dans tous les pays. Donc les frontières sont réouvertes. Mais je veille à ce qu'elles ne se referment pas, notamment pour les matériels de santé, oui. Parce que précisément, on a maintenant une vision globale et qu'il faut évidemment que l'on puisse les distribuer là où les besoins sont les plus
présents. Mais est-ce qu'il faut distinguer entre les frontières des marchandises qui doivent rester ouvertes, notamment pour l'équipement sanitaire, et les frontières des personnes? On comprendrait mal que les gens n'aient pas le droit de sortir de chez eux et qu'ils aient le droit de passer d'un pays à l'autre.
Alors, c'est une question, et il faut toujours la prendre avec un peu de recul. C'est une question très importante. Et vous parlez du déconfinement. Voilà. Je trouve que c'est un peu prématuré, mais je répondrai à toutes vos questions. Je vous l'ai dit et je vais le faire. Mais voyez-vous, quand il y a une crise d'une telle ampleur, les comportements, pendant un certain temps, sont changés. Souvenez-vous des attentats du 11 septembre. Avant les attentats du 11 septembre, on circulait directement comme on voulait, on embarquait dans un avion avec uniquement sa carte d'embarquement et ses pièces d'identité. Et puis après, on a mis ces portiques, ces lignes qui se sont faites. Il faut mettre ses affaires dans un bac, les passer sous un scanner. Voilà, on change. Si votre question, Guillaume Roquette, c'est de dire, est-ce que pendant un certain temps, on va changer nos façons de traverser les frontières? Oui, je le crois. Mais il faut le faire de la façon la plus souple, la plus proportionnée, et c'est ce à quoi nous travaillons ensemble.
Une question, Jean-Louis Breton, sur les conséquences que ça va avoir sur la vie des gens dans les prochaines semaines et les prochains mois. Est-ce que, par exemple, cet été, vous pensez que les Français, les Européens, pourront partir en vacances? Est-ce qu'on pourra justement ainsi voyager à travers le continent, passer ses frontières, ou est-ce qu'il sera trop tôt pour cela, à votre avis?
Je vous ai dit que je répondrai à toutes vos questions, et je vous dirai très honnêtement, si je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la réponse à cette question, Adrien Jarl. Je ne l'ai pas parce que je n'ai pas assez d'éléments. Et puis, ce n'est pas mon rôle. Encore une fois, c'est le rôle des autorités sanitaires nationales de prendre cette décision. On va veiller, nous, à donner des règles pour essayer de faire en sorte qu'elles soient le plus possible harmonisées, y compris par rapport à ma question précédente à Guillaume Roquette. Mais derrière, je n'ai pas cet élément. Comment faut-il faire pour avoir l'élément à cette question? Il faut pouvoir anticiper. Il y a trois volets sur lesquels on travaille. Et je le redis, la façon de sortir de cette crise, c'est évidemment, je sais qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est de faire confiance à la science qui avance. D'abord, évidemment, de trouver des médications, je pense que vous en reparlerez. Bien entendu, de pouvoir avoir un vaccin le plus rapidement possible. On sait, il faut être toujours très transparent avec ceux qui nous écoutent, qu'en gros, un vaccin, c'est 18 mois, 20 mois, donc voilà.
La chloroquine?
Non, mais c'est un autre sujet.
Non, mais je vous parle. Est-ce que vous croyez à la chloroquine?
Je ne suis absolument pas médecin, je suis ingénieur, Et donc, je me garderai bien de répondre à cette question, car je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je fais confiance, en revanche, aux autorités de santé et aux scientifiques. Voilà, la Suède vient de dire qu'elle l'interdisait, d'autres pays la promeuvent. Je n'ai pas la réponse et je ne veux pas me prononcer dessus.
Mais est-ce qu'on ne peut pas peser trop de responsabilité sur les autorités de santé?
Non. Les politiques doivent prendre leurs décisions éclairées. Pour finir ma réponse, Adrien Gindre, à votre question, le troisième volet, c'est le suivi et l'anticipation de la pandémie dans sa phase de décroissance. Et là, il faut des outils scientifiques, des outils technologiques qui permettent effectivement d'anticiper. C'est les modélisations mathématiques qu'on a mis en place, qui fonctionnent maintenant assez bien. On a du reste sollicité les opérateurs de télécommunications à ma demande, il y a maintenant 3 semaines et 4 semaines, pour qu'ils fournissent des données agrégées, pas les données individuelles, hein, agrégées pour pouvoir intégrer dans les modèles le confinement. Donc, encore une fois, ce n'est pas vos données personnelles ni les miennes, c'est des données agrégées pour voir si le confinement joue un rôle. Ces modèles fonctionnent. On est évidemment complètement compatible avec la réglementation générale des données personnelles. Personne ne peut réutiliser ces données agrégées. Et ça fonctionne. On a obtenu, encore une fois, tous les agréments des CNIL locales et de la CNIL européenne pour le faire. Cet instrument nous permet d'anticiper précisément les évolutions de la pandémie et pourront éclairer les politiques lorsqu'il faudra prendre la décision.
Je rebondis, vous dites données agrégées. Est-ce que vous êtes, par exemple, vous favorable à cette idée de tracking, qu'il a soit des données individuelles pour savoir qui croise qui?
Alors, avec une application téléphonique.
C'est un sujet tout à fait différent, mais qui, évidemment, interroge légitimement nos concitoyens, nos compatriotes et nos concitoyens européens en ce moment. C'est un outil, alors là, c'est tout à fait différent, sur lequel certains commencent à réfléchir, pour précisément, pas pour maintenant, mais pour la phase précisément de déconfinement, lorsque j'ai indiqué qu'on devrait vivre encore pendant un certain temps avec le virus dans la phase de décroissance. Alors là, si vous voulez, les choses, elles sont très claires. Et je vais être très clair parce que j'entends beaucoup de choses. Ce que nous avons proposé à la Commission, c'est d'avoir une ligne directrice de ce que nous pensons qu'il fallait faire et ne pas faire, à travers ce qu'on appelle, alors, une liste de règlement, on appelle ça une toolbox en anglais, donc très précise, pour dire voilà ce que nous pensons qui peut être fait, et voilà ce que nous pensons qui ne doit absolument pas être fait. Cette toolbox, elle a été finie, elle a été proposée la semaine dernière, je vais pouvoir la décrire en avant-première à vos auditeurs ce matin, et l'objectif, c'est qu'elle soit maintenant acceptée dans la semaine, les 10 jours qui viennent, par l'ensemble des États membres.
Alors, qu'est-ce que vous mettez dans cette boîte à outils?
Alors, dans cette boîte à outils, d'abord, les choses sont très claires. Pourquoi faire? Il s'agit simplement de pouvoir, d'abord sur la base du volontariat. Il est hors de question, on ne soutiendra jamais, jamais des mesures qui soient des mesures coercitives. Uniquement sur la base du volontariat. Faire en sorte que, dans cette phase de déconfinement, si vous voulez accepter, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez accepter parce que vous estimez que c'est un rôle citoyen, eh bien vous vous inscrivez sur une application. Alors, c'est 8 pays qui travaillent aujourd'hui ensemble, la France par exemple avec l'INRIA, l'Allemagne avec le Fraunhofer Institute, qui travaille donc sur ce que pourrait être cette plateforme, qui fonctionne essentiellement par Bluetooth. Nos auditeurs connaissent bien ce que ça veut dire. Mm-hmm. Et ça veut dire qu'en fait, lorsque vous croisez quelqu'un, vous voyez par exemple là, aujourd'hui, nous sommes, Adrien Gindre, à 2 mètres. Eh bien, si vous avez votre portable, et moi je l'ai, qu'on est d'accord pour le... On est passé plus de 10 minutes ensemble, donc on ne va pas dire que c'est Adrien Gindre ou Thierry Breton, mais il sera indiqué, parce que vous avez un identifiant, et moi aussi, qui sont connus que de vous et de moi, que... Eh bien, on a passé un quart d'heure. Donc, si jamais, un jour, l'un de vos contacts était suspect ou malade, à ce moment-là, on pourrait savoir qu'il y a une liste de personnes autour de vous qu'il faut aller voir. Est-ce qu'ils l'ont?
Sauf et donc, que si c'est sur la base du volontariat, Thierry Breton, tout de suite,
c'est
vous
très important.
C'est que ça ne sera pas suffisant et que,
c'est,
du coup, ça ne sera pas
grave,
efficace.
C'est pas grave. Il faut avancer.
Concrètement, c'est pas grave.
Donc,
pas...
je vais juste finir. Donc, on a dit base du volontariat. On a dit, évidemment, uniquement utilisé par les autorités de santé. Impossible à toute autorité judiciaire, de police, commerciale, évidemment, assurance, d'y avoir accès. Et donc, les systèmes existent. Les systèmes existent. Et donc, on proposera des lignes rouges très, très claires, avec, évidemment, l'accord complet des CNIL nationales, qui donneront leur accord.
Commission nationale
Informatique et Liberté. Et de la CNIL européenne, bien sûr, on travaille avec eux pour donner toute la garantie, les maîtres mots, c'est et pour garantie absolue, transparence absolue, et volontariat.
Pour bien comprendre comment ça marche, donc on est tous les quatre dans ce studio, si moi, dans une semaine, je suis atteint par le virus, donc c'est moi qui volontairement l'indique sur l'application, et à ce moment-là, les 3 autres personnes ici présentes sont au courant
bien, on saura,
que j'ai attrapé le virus.
On saura à ce moment-là, de façon totalement anonyme, que tous ceux auprès desquels vous avez été en contact, donc, Guillaume Roquette, au cours des 15 derniers jours, seront à ce moment-là informés anonymement en disant...
Ils ne sauront pas que c'est moi.
On ne sait pas que c'est vous, on ne sait absolument pas, on dira... Merci d'aller vous faire tester, oui. Parce qu'il y a une suspicion. Terminé.
Mais il faut un accord européen. Est-ce qu'il faut un accord européen ?
Non, il ne faut pas d'accord européen. Mais vous voyez, c'est comme ce que j'avais fait pour la 5G, vous vous en souvenez, où on a harmonisé là aussi avec une toolbox et on a réussi à mettre d'accord les pays européens en donnant une boîte à outils, des lignes directrices, et ça a bien fonctionné. Là encore, c'est pour vraiment qu'on ait des lignes directrices extrêmement claires. Vous voyez, on n'est pas...
Tous les pays ne sont peut-être pas d'accord avec vous.
Eh bien,
la Hongrie, dont on parle souvent, va peut-être vous dire bah, nous, ça ne sera pas sur la base du volontariat.
Eh bien encore une fois, c'est la raison pour laquelle on discute en amont, et j'ai bon espoir qu'on aboutisse, mais voyez-vous, les méthodes plus coercitives, on dit, ah bah oui, mais regardez, en Israël, ils font vraiment du tracking géolocalisé. Par exemple, on me dit aussi, en Corée, ils font du tracking géolocalisé. Oui, mais enfin, la Corée, c'est un pays qui est en guerre, encore, je le rappelle. Israël est un pays qui est en guerre. Dans les pays en guerre, on n'a pas la même sensibilité à la relation.
Guerre, Emmanuel Macron
non,
l'a dit.
On n'a pas la même sensibilité. J'ai parlé de la frontière avec le virus. C'est ça, la vraie frontière. L'humanité et le virus. Mais dans les pays
démocratiques... Donc vous rejoignez davantage le président allemand
dans que les, la dans les pays démocratiques qui sont les nôtres, fondés sur le respect de l'individu, de la personne. Et vous savez, vous me connaissez depuis un certain temps. Je me bats depuis des années pour la protection des données personnelles. J'ai été l'un des grands militants. Donc croyez-moi, en tant que commissaire, j'y veille. Et ce qu'on nous proposera préservera les garanties individuelles. Et après, eh bien, nos concitoyens feront ce qu'ils veulent. J'espère qu'ils répondront présents.
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Monsieur Breton, je suis Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise et coprésidente du groupe de la gauche unitaire au Parlement européen. L'accord que vient de trouver l'Eurogroupe cette semaine revient à imposer des années d'austérité aux États du Sud en conditionnant l'aide européenne à un contrôle budgétaire sur toutes les dépenses autres que la santé. Or, on sait très bien que la dette des États est trop importante et qu'il sera impossible de la rembourser sans détruire davantage encore nos services publics. Alors pourquoi refuser d'étudier la seule option viable ? Permettre à la Banque Centrale Européenne de prêter directement aux États, d'annuler progressivement la dette et ainsi d'éviter la catastrophe économique et sociale.
Thierry Breton, annulation des prêtés et annulés.
Alors, je ne vais sans doute pas vous surprendre. Je ne partage pas exactement la lecture de Manon Aubry sur ce qui s'est passé à l'Eurogroupe. Je vais vous donner ma lecture. Ma lecture, on a tous beaucoup travaillé, il y a un travail formidable qui a été fait, y compris par mon collègue Paolo Gentilini, qui est le commissaire européen.
Mm-hmm. Avec qui vous avez signé une trime, on y reviendra.
Voilà, on s'est battu tous les deux précisément pour avoir ce quatrième volet. Mm-hmm. Il y a deux choses qu'il faut retenir de cet accord de l'Eurogroupe. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a une urgence absolue pour faire en sorte, vous savez, je pense là aussi à tous les jours, c'est mon rôle en tant que commissaire au marché intérieur, les PME, c'est la crise de liquidité. Il est indispensable, je le répète, indispensable, que l'on mette sans tarder, sans le moindre délai, les tuyaux, pardon cette expression un peu triviale, mais qui vont permettre d'avoir un financement direct pour permettre aux PME de survivre, de passer cette situation. Elle est temporaire, par définition, mais il faut la passer. Et là, il faut évidemment des liquidités. C'est ce qu'a fait la BCE en mettant ses 750 milliards d'euros sur la table, on le sait. Et là, les tuyaux sont en route. La BEI, par exemple, en France, fait un travail absolument remarquable. Ben, il faut évidemment être en permanence, veiller à ce que tout ça se passe bien. Et puis, deuxièmement, et là, donc, si vous voulez, tout ça... Ça a été mis en place par la BCE et effectivement renforcé par ce premier volet qui comporte trois dynamiques. Le volet qui est d'abord 200 milliards par la Banque européenne d'investissement pour aller précisément vers les PME. Mmh. Très bien. 200 milliards qui proviendraient du fonds du MES, du mécanisme européen de stabilité, pour aller plutôt financer ou refinancer les éléments de santé. Et puis le troisième de 100 milliards, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas des assurances chômage pour les aider précisément à faire en sorte qu'on puisse faire du chômage partiel partout. Ça, c'est le premier. 500 milliards, c'est pour le passé.
Eh bien, on parle de la suite dans quelques instants.
Le quatrième pilier, donc pour l'avenir.
Le quatrième pilier, on va en parler. À tout de suite après la pause et on retrouve Thierry Breton pour ce grand jury.
Chaque soir, vous êtes des millions à manifester votre soutien au personnel soignant. Ensemble, donnons à ceux qui en ont besoin les moyens d'agir contre l'épidémie. Pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables, faites un don sur fondationdefrance.org. Tous unis contre le virus,
avec la Fondation de France, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, l'Institut Pasteur et de nombreux acteurs engagés sur le terrain.
La curiosité retourne à l'école.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues sur RTL.
Comment Notre-Dame de Paris a-t-elle été édifiée? Quelles sont les particularités de son style gothique?
Quelles reliques et trésors a-t-elle renfermé? Quel grand moment de notre histoire s'y sont joués?
La curiosité retourne à l'école et contribue à l'opération Nation Apprenante. On rend hommage à Notre-Dame de Paris demain à 14h sur RTL.
RTL, il est midi et demi. Le rappel des titres avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Aucun pays n'était préparé à cette épidémie selon Thierry Breton. Le commissaire européen en marche intérieure est l'invité du grand jury RTL-LCI Le Figaro. Pour moi, la seule frontière qui existe, c'est entre l'humanité et le virus, déclare-t-il. La problématique de santé est à la main des États. Les masques, les respirateurs, le matériel manquent sur tout le continent européen. L'objectif selon Thierry Breton est de devenir autosuffisant en termes de production dans les mois à venir. Plus de 75 000 morts en Europe selon un dernier bilan de l'AFP, 13 800 en France selon le directeur général de la santé, 345 décès à l'hôpital ces dernières 24 heures. Il semble que nous atteignons un très haut plateau, mais l'heure n'est pas au déconfinement. Pâques sans fidèles et à huis clos à Rome, le pape en petit comité prononce sa bénédiction Urbi et Orbi dans la basilique Saint-Pierre. Le souverain pontife adresse un message aux malades, aux morts et aux familles. La pandémie met à rude épreuve notre grande famille humaine. Il appelle à répondre par la contagion de l'espérance. En Espagne, après une accalmie, le nombre de morts quotidiens repart à la hausse. 619 décès supplémentaires en 24 heures. Aux États-Unis, 20 000 personnes ont succombé à la maladie. C'est le pays le plus endeuillé au monde devant l'Italie. À New York, pas de réouverture des établissements scolaires avant la rentrée prochaine, selon le maire Bill de Blasio. Dans un instant, le grand jury.
Vous avez raté une émission ou vous voulez en réécouter une? Rendez-vous sur rtl.fr pour retrouver l'ensemble de nos programmes.
rtl.fr, c'est aussi l'occasion de découvrir en podcast des émissions inédites produites pour vous.
Affaires criminelles, sexualité, musique, science, foot, culture américaine ou interviews d'artistes.
Découvrez nos nouveaux podcasts en trois clics sur rtl.fr.
Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le commissaire européen pour le marché intérieur, Thierry Breton. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Gindre, TF1 LCI, et Guillaume Roquette du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Oui, pour financer la sortie de cette crise, vous êtes favorable à ce qu'on appelle parfois des corona bonds, c'est-à-dire à ce que les pays européens s'endettent ensemble pour trouver les financements. Sauf qu'il y a des pays d'Europe du Nord, ce qu'on appelle parfois les radins, les Hollandais, les Allemands, qui ont l'air assez réticents en disant on va emprunter ensemble, mais comme d'habitude, c'est nous qui rembourserons.
Alors c'est précisément ce quatrième pilier dont je parlais tout à l'heure qui me permettra de répondre à Mme Aubry, car je veux apporter une réponse complète. Et je vais essayer de synthétiser les deux. D'abord, il faut bien que nos auditeurs comprennent une chose. Il n'y a pas un seul pays européen, qu'il soit du Nord, qu'il soit du Sud, que ce soit l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, qui a le premier sou vaillant pour faire face à cette crise. Ils vont tous devoir emprunter. Les premiers, c'est l'Allemagne qui l'a fait. Ils viennent emprunter 356 milliards. Les Hollandais seront aussi. Donc on va oublier cette dichotomie des pays frugaux et des pays du Club Med. C'est terminé.
Ouais, nous sommes tous... Hein.
Oui, mais on le leur rappelle et je pense que ça va rentrer dans les mœurs. Pour cette crise-là, nous sommes tous, je le disais tout à l'heure, égaux devant la crise. Il s'agit que chacun ait un accès identique au financement pour sauver ses industries, ses entreprises localement. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs semaines, vous l'avez vu, Guillaume Roquette, y compris le reste dans votre journal, lorsque j'ai présenté la stratégie industrielle de l'Europe, j'ai milité pour précisément un fonds. Alors, je l'appelle pas Corona Bond parce qu'il est connoté, etc., et que politiquement, les mots ont un sens. C'est un fonds. C'est un fonds qui n'a pas la même dynamique que les trois premiers volets dont je parlais tout à l'heure, et qui va permettre précisément à tous les États d'emprunter, donc à travers des obligations, mais sur des très 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 longs termes, sur 20 ans, sur 30 ans, Parce que ce quatrième pilier, ce fonds, il doit servir précisément à reconstruire nos industries qui ont souffert et à les reprojeter dans le monde de demain. Et donc, le bénéfice qu'on pourra en attendre, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans.
Combien de milliards?
Donc
on
là,
parle de 1500 milliards?
Je pense que globalement, oui. Il faut en gros 10% du PIB européen, c'est-à-dire en gros 1600 milliards. 1600 donc on a milliards. Déjà 500 milliards. Donc vous voyez, je pense qu'il faut avoir un fonds en gros de 1000 milliards. Mais vous voyez, ce qui est très important, c'est que les États, pour la première partie, vont emprunter à la Banque Centrale Européenne. Et là, les maturités, ils empruntent sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans. Il faut qu'ils remboursent. Et là, précisément, c'est d'avoir ces fameux bonds, c'est d'avoir la capacité à rembourser dans 30 ans.
Mais ça ressemble à une bonne idée. Alors pourquoi y a-t-il tant de réticences?
Précisément parce que ce que ne voulaient pas, et je peux les comprendre, ce que ne voulaient pas les pays d'Europe du Nord, qui avaient fait les efforts, comme moi-même vous l'avez rappelé lorsque j'étais ministre, eh bien, ils ne voulaient pas que ces efforts, précisément, servent à couvrir, j'allais dire, le laxisme, certains disent la turpitude du passé. Donc très bien, là on parle du présent et de l'avenir. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'on va tomber d'accord et que ce quatrième pilier qui figure, et c'est un élément très important, qui figure noir sur blanc dans l'accord qui a été atteint par l'ensemble des ministres de l'Eurogroupe, qui doit être concrétisé, je suis très confiant qu'on va trouver à charge pour nous, et c'est mon travail, de bien dire de combien ce fonds doit être doté pour pouvoir faire face précisément aux évolutions. Et derrière, vous voyez bien, de déstresser, j'allais dire.
Cet accord quand? Le 23
oui, au Conseil européen? Oui, c'est ce qu'a dit Charles Michel, il l'a dit vendredi. Il souhaitait réunir un conseil chefs d'État et de gouvernement le 23 avril. Et bien sûr, j'espère qu'on pourra en parler à ce moment-là. Breton,
ça veut dire que ces dettes qui seront octroyées aux pays qui ont souvent besoin de ces dettes, comme l'Italie, ce sera sans condition de réforme?
Oui,
ça, alors c'est très important. Est-ce que ça, vous le certifiez? Oui, c'est ce que ne veut pas, par exemple, l'Italie. Elle ne veut pas qu'on lui impose une rigueur budgétaire, une rigueur.
Et je les comprends, car je le redis, tout le monde doit être égal devant les conséquences de la crise. Et donc, ils ne voulaient pas qu'un instrument qui avait été créé, ce fameux mécanisme européen de stabilité, qui avait été créé pour venir en aide d'États qui auraient été défaillants par rapport à leur gestion, et qu'on le reconvertit, ils voulaient retirer cette conditionnalité, et entre nous, ils ont raison.
Et juste avant qu'on en vienne au travail...
Elle n'existe pas dans l'accord qui a été atteint par l'Eurogroupe, ce qui est formidable.
À l'instant, le pape, je vous dis ce que vient de dire le pape, il demande l'annulation des dettes des pays africains. Est-ce que vous y êtes favorable concernant la dette européenne?
Alors, on est maintenant, là, si vous voulez, dans le monde d'après, et c'est pour finir la question qui a été posée, dans le monde d'après, effectivement, on va avoir un monde. Alors, je l'espère et je travaille jour et nuit avec mes collègues commissaires, Didier Reynders à la justice, Paolo Gentilini à l'économie, Staya Kilakides à la santé. On travaille jour et nuit pour précisément faire en sorte qu'on maintienne le socle industriel européen. Et derrière, on sait. Et là, il n'y a pas le choix. On sait que les dettes vont augmenter. Et voyez-vous, je suis le premier à dire qu'il nous faut ces fonds, mais des maturités différentes par rapport à l'objectivité. Donc il faudra effectivement, derrière, tout sera mis sur la table. Il faudra regarder ces sujets sans tabou, mais chaque jour suffit sa peine.
Ce qu'on comprend mal, c'est pourquoi est-ce que pendant des années, vous étiez le premier à dire la dette, c'est dangereux, c'est risqué, on ne pourra pas la rembourser, et aujourd'hui, ce n'est plus un problème et on peut s'endetter sans limite.
Je comprends très bien cette question, et je n'ai pas changé d'avis dans le monde où nous étions, où ce qui était très mortifère, c'était la différenciation, notamment entre des grands pays comme l'Allemagne et la France. En tant que ministre, je veillais en permanence à ce qu'il n'y ait pas de différenciation. Malheureusement, cette différenciation a eu lieu après, puisque on est passé de 60% lorsque j'ai quitté Bercy, à 100% quelques années plus tard, alors que l'Allemagne était à 60%. Et donc c'était ça qui était mortifère. Aujourd'hui, par cette situation, tout le monde a besoin précisément d'avoir accès à cet endettement. Donc paradoxalement, ce différentiel va se réduire, c'est donc moins dangereux. Donc maintenant, c'est ensemble.
C'est pas vous qui avez changé, c'est le contexte.
Non, mais c'est clair que le contexte a changé. Alors, donc c'est ensemble qu'il faut trouver des solutions. Voilà.
On revient sur le travail, le quotidien pour les Français.
Et en l'occurrence, à la source de ces difficultés budgétaires, le fait que l'économie réelle soit à l'arrêt, qu'une partie de la production, des usines, se soit arrêtée ou ralentie depuis plusieurs semaines à l'entrée en vigueur du confinement dans un certain nombre de pays. Il y a quand même quelques usines où la production a repris, au moins partiellement. Est-ce que vous considérez qu'il faut amplifier ce mouvement? Est-ce que vous dites aux usines, aux salariés, retournez au travail? Il y a une incompréhension depuis plusieurs semaines entre le rester chez vous et aller travailler.
Là encore, je suis commissaire au marché intérieur et je m'interdis d'entrer dans la gestion des États membres. Ce n'est pas mon rôle et je veille à précisément bien garder ma légitimité et la globalisation
c'est
de
pas
mon travail.
C'est une orientation. On a
mais je redis qu'il est de la responsabilité de chaque État membre de définir ses politiques quand le moment sera venu de retour progressivement à la normalité. Je l'ai dit tout
mais
à l'heure.
Mais ce moment n'est pas venu
je
maintenant.
Je l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir, pendant un certain temps, apprendre à cohabiter avec le virus. Et ça, pardon, ce n'est ni vous, Adrien Gendre, ni moi qui le savons. C'est effectivement l'ensemble des données qui seront disponibles à un moment donné qui nous permettront de le mettre, de décider du temps et des modalités pour le mettre en place. Croyez-moi, tout le monde veut que ça se passe le plus rapidement possible. Mais chacun doit comprendre que ça ne doit se faire que en garantissant la santé de tous.
Mais avec votre
j'ai bien parlé tout à l'heure de l'humanité. Nous sommes tous co-responsables de cette pandémie,
avec
quelque part, et sa propagation. Roquette.
Avec votre expérience personnelle, vous avez présidé des groupes industriels comme Thomson. Est-ce que, selon vous, on peut faire tourner des usines, les remettre en route en respectant ces règles de distanciation?
Oui, alors la réponse, c'est oui. Sans aucun doute, il faut évidemment en discuter avec les syndicats, il faut en discuter avec les comités hygiène et sécurité, ces fameux CHSCT qui sont dans tous les établissements maintenant français, mais évidemment partout en Europe. La réponse à votre question, c'est oui. En revanche, ce qui est très important, c'est que nous sommes maintenant dans une, on appelle ça des chaînes de valeur, des supply chains en anglais. On a évidemment des systèmes qui sont très intégrés. Intégrés au niveau européen. Et donc, je dois veiller, par exemple, qu'à partir du moment où une usine va démarrer, il faut que tous ces approvisionnements avec d'autres usines fonctionnent. C'est pour ça que nous avons décidé, et là encore, on l'avait expliqué dans votre journal, que la façon de projeter la stratégie industrielle de l'Europe, c'est par écosystème. Il faut que tous les écosystèmes soient intégrés. L'écosystème automobile, ben, il ne peut pas y en avoir un qui tombe, parce que si un tombe, ça peut être précisément...
Thierry Breton, est-ce qu'il faut augmenter la durée du temps de travail, comme le suggère aujourd'hui Geoffroy Roux-Bézieux, dans les pages du Figaro?
J'entends ces débats, je n'ai absolument aucune réponse en ce qui me concerne comme commissaire européen. Je peux avoir des idées en tant que...
Il y a une limite européenne à 48 heures par semaine. Est-ce que, par exemple, il faut la changer?
Mais j'entends ces débats, mais encore une fois, ce n'est pas à moi à y répondre.
Et sur la question des recapitalisations, ce qui pourrait arriver à Air France, ou des nationalisations, s'il fallait venir en aide à certaines entreprises, est-ce que là, en tant que commissaire européen, pour le coup, vous avez un avis?
Alors, absolument. Et du reste, nous avons poussé avec ma collègue Margrethe Vestager pour complètement libérer précisément les contrôles d'aide d'État. Désormais, elles sont autorisées de façon très large. Je constate que la France vient de décider d'un fonds de 20 milliards d'euros, c'est quand même pas rien, pour précisément pouvoir intervenir soit en recapitalisation, soit même en prise de capital, soit même en nationalisation partielle ou totale et de façon transitoire. Donc la réponse, c'est oui, nous allons voir précisément sur l'ensemble du continent européen ce type d'intervention arrivée, y compris en Allemagne. L'Allemagne a également décidé d'un fonds pour ce faire.
L'Europe ne s'y opposera pas.
Non seulement elle ne va pas s'y opposer, mais elle a mis, là encore, comme on va le faire sur le tracing, elle a mis, encore une fois, une boîte à outils à disposition, et les États ont toute liberté maintenant de le faire. Vous voyez, Guillaume Roquette, là aussi, dans le monde d'avant, j'avais une autre vision. Eh bien, dans ce monde-là, je suis le premier à le dire, il faut le faire si c'est nécessaire.
Beaucoup de responsables économiques disent, attention, si le redémarrage est trop lent, il y a un risque de récession très grave, presque de faillite des États. Est-ce qu'il ne faut pas accepter qu'il y ait des victimes supplémentaires, et même si c'est grave comme décision, pour éviter justement que les États européens et les économies européennes ne tombent en faillite?
J'entends ces débats, évidemment, hein, et dites-vous bien qu'ils n'ont pas lieu qu'en France. Donc je les entends, et les réponses au niveau européen sont toutes les mêmes. Priorité à la santé. Elles sont toutes les mêmes. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois...
Quoi qu'il en coûte aussi.
Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on va rester confiné chez soi jusqu'à l'éradication totale sur la planète du virus. Je le redis. On est en train de mettre en place un système mondial, européen, puis national et français, pour apprendre, dans cette phase qui va s'annoncer devant nous, à cohabiter avec le virus jusqu'à ce que nous ayons le vaccin, c'est-à-dire dans quelques mois.
On devra apprendre à cohabiter avec le virus,
oui.
C'est ce que vous nous dites.
Mais on a les outils, on a les savoir-faire, on a l'expérience et on saura le faire. et je ne pense pas que ce sera trop contraignant.
Adrien Jean.
Le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, parle d'une crise comparable à celle de 1929. C'est une date qui marque, qui frappe. Est-ce que vous partagez cette analyse et qu'est-ce que ça veut dire ?
Je crois que le message qu'il fait passer, c'est qu'elle est totalement inédite et qu'elle est d'une ampleur sans précédent au cours des décennies, peut-être même du siècle qui vient de s'écouler. Et dans ce contexte, si j'entends ce que dit la directrice générale du FMI, elle dit, sans peut-être prendre cette comparaison, la même chose. Oui, je le dis à nos auditeurs aujourd'hui, nous sommes face à une crise totalement inédite. Et donc
on aura demain des millions de chômeurs, et donc, dizaines
non,
de millions.
Et donc je le redis, pour moi, le seul élément, le seul mot qu'il faut retenir, et que je retiens moi tous les jours dans mon action, c'est la solidarité. La solidarité, la solidarité. La solidarité d'abord entre nous, on le voit du reste, entre nos concitoyens, les personnels de santé, ceux qui sont au front, tous, les infirmières, qui font un travail incroyable, les aides-soignantes, mais aussi tous ceux qui contribuent à ce que la vie continue à tourner. La solidarité entre les États. Et croyez-moi, de là où je suis, je me bats tous les jours pour que cette solidarité fonctionne, mais aussi, et je le répète, la solidarité entre les continents. Pas d'ostracisation. Je vois les jeux qui peuvent se jouer aujourd'hui entre ces continents. Nous aurons besoin de tous. Ce combat, on le gagnera tous ensemble ou on le perdra tous ensemble.
Thierry
Breton, et comme on le gagnera,
Thierry Breton,
ce sera en étant solidaire.
On sait ce qui s'est passé après 1929, c'est la victoire des populismes. Est-ce que vous le craignez et est-ce que ça veut dire que ça peut être le délitement de l'Europe ?
Alors, c'est une question. Alors là, on sort un peu évidemment du combat actuel. Vous m'extrayez de mon combat quotidien.
Et les gens s'interrogent.
Ce que je vois, je vais vous dire de là où je suis, ce que je vois, c'est que les populistes ont complètement disparu. Moi, je ne les entends plus. Je les entends plus.
Vous parlez en France ou en Europe là ?
Partout. Partout. On ne les entend plus.
En France, vous n'entendez aucune voix populiste ?
Non, très peu. Très peu. Et quand ils essaient de s'exprimer, ils le font sous couvert, et c'est pas mal, républicain.
En Italie, vous ne les entendez pas critiquer l'Europe ?
Non, on ne les entend plus. On ne les entend plus, les populistes, je vous assure.
Et en France, vous n'entendez pas aussi.
Vous savez pourquoi ?
Marine Le Pen critiquer l'Europe, oui, mais Jean-Luc Mélenchon aussi, l'inefficacité.
Je respecte les positions de chacun, mais on ne les entend plus dans le combat que nous menons pour une raison simple. Et je le redis. Ce combat n'a pas de frontières. Ce combat, on le gagnera ensemble. C'est l'inverse d'un discours populiste. Et voyez-vous, je ne jette pas la pierre, encore une fois, à ceux qui croient aux vertus du populisme. Chacun est libre, bien entendu. Je crois plus, si vous voulez, à un retour du souverainisme que du populisme. Du souverainisme au sens où, effectivement, on se rend compte, mais c'était engagé auparavant déjà, on se rend compte que finalement on est peut-être allé trop loin. Je l'avais dit, vous vous en souvenez, Adrien Gindre, vous m'avez interviewé là-dessus. Je l'avais dit, on est allé sans doute trop loin sur la mondialisation et on voyait même avant cette crise, on voyait revenir des velléités, des tendances à relocaliser des industries.
C'est ce que dit Arnaud Montebourg cette semaine dans la presse. On lui dit, à l'époque, on me riait au nez, c'était en 2014. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il avait raison ?
On est au combat.
Il faut garder des entreprises en France.
Je respecte tout le monde, on est au combat. Et je dis simplement que les grandes crises, pour reprendre la question d'Adrien Gindre, les grandes crises sont très souvent, dans l'histoire, des accélérateurs des tendances. Quelles étaient les tendances dans lesquelles nous étions engagés ? Une tendance à être plus vert, c'est-à-dire plus respectueux de notre environnement, y compris en ce qui concerne la santé. Une tendance en ce qui concerne l'importance du numérique. Une tendance à une redéfinition des grands rapports de force. Eh bien oui, et notamment avec les relocalisations, et notamment avec une autre façon de voir la globalisation, avec plutôt un changement vers une cohabitation plutôt qu'une localisation. Eh bien oui, je crois sincèrement que cette crise, comme toutes les grandes crises de l'histoire, va jouer son rôle d'accélérateur dans ces trois vecteurs, et qu'on va donc rebâtir un autre monde, et c'est la raison pour laquelle j'en reviens à mon fond. Il faut absolument un fond très large d'accompagnement pour rebâtir ce monde nouveau en fonction de ces trois tendances.
Pour le consommateur, c'est un changement, cette relocalisation, parce que si la mondialisation est allée si loin, c'est aussi parce que les produits importés de Chine coûtaient beaucoup moins cher. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation des prix ?
C'est vrai, mais de quoi on s'en rend compte ? Et comme vous le rappeliez, j'ai été moi-même chef d'entreprise, je connais bien cette question. C'est vrai, mais pourquoi on se posait la question, Guillaume Roquette, avant même cette crise d'une relocalisation ? D'abord pour des éléments de souveraineté, n'ayons pas peur de le dire, y compris pour la santé. Il faut évidemment que les médicaments soient faits au plus près des lieux de consommation. mais aussi parce que la fabrication, qui était le coût de fabrication principal, qui était au cours des 30 dernières années plutôt la main-d'œuvre, devient maintenant plutôt les process eux-mêmes. Et avec la numérisation, eh bien c'est vrai qu'avec les imprimantes 3D, avec la façon de concevoir, c'est un facteur qui est moins important qu'auparavant. J'y ajoute enfin la dernière dimension, qui est tout simplement le transport. C'est-à-dire que l'empreinte carbone, précisément, devient un élément absolument majeur, y compris dans les coûts. Donc tous ces éléments faisaient que déjà, on est en train de revoir tout ça. Je le redis à nos auditeurs, qu'on ne s'attende pas à ce qui est dans les mois ou années qui viennent, la fin totale de la globalisation, ce serait faux. Par contre, plutôt qu'une globalisation, une cohabitation plus intelligente, mieux ordonnée, plus respectueuse de nos intérêts, oui, j'y
crois. Mais il y aura donc moins de commerce mondial également, Thierry Breton, c'est ce que vous nous dites.
Je ne dis pas ça, parce qu'encore une fois, il sera peut-être plus réparti, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il va être... on continuera certainement à avoir des lieux de fabrication dans différents continents, bien entendu dans la Chine, qui est un partenaire très important, et que moi je respecte beaucoup, mais... Il y aura peut-être d'autres sources d'approvisionnement, je le crois, oui.
Est-ce que, Thierry Breton, du coup, l'Europe, vous me dites, doit s'adapter, c'est ce que vous souhaitez. Est-ce qu'elle doit changer ses fondamentaux, d'une part sur le droit de la concurrence qui a empêché de créer des géants européens, on voit que c'est important aujourd'hui pour des filières entières, et d'autre part, eh bien, mettre de côté la règle des 3% de déficit budgétaire. Emmanuel Macron, avant même cette crise, avait dit que ce n'était plus un totem.
Oui, alors deux domaines. D'abord, sur les règles de concurrence, là encore... Et lorsque nous avons présenté la nouvelle stratégie industrielle avant la crise, évidemment, nous avions indiqué que nous avions organisé une revisite totale des règles de concurrence à l'aune précisément des trois tendances que j'ai rappelées tout à l'heure, le pacte vert, le numérique et l'évolution des changements de rapport de force avec plus de souveraineté. Donc oui, on revoit ces règles de concurrence, c'est pour répondre à votre question. Deuxième question, en ce qui concerne les règles qui, de notre vivre ensemble, du pacte de Maastricht, je rappelle qu'il y en avait deux. Il y a effectivement d'abord les 60% d'endettement.
Oui, bon, ça,
on voit bien que là, il a disparu. Il faudra donc bien qu'on s'assoie autour de la table pour discuter de ce qu'on fait. Bon, il y a des idées. On en parlera. Je pense en particulier que le fait de pouvoir monétiser une partie peut-être de ces dettes sera important.
Mais on peut changer.
Sur
on
le même
changer.
Il faut,
vous pensez
mais,
qu'il
mais
faut
il faudra
changer
discuter,
ces règles.
Il faudra discuter, évidemment, et je suis certain qu'on discutera. Quant aux 3%, quand on reviendra dans une normalité, il faudra évidemment avoir des règles de vivre ensemble.
Donc il faut la maintenir après.
On verra s'il faut les maintenir. Est-ce que c'est à 3, est-ce
mais
que c'est à 2
mais temps,
il faudra.
On peut parler de quelques mois, quelques années.
Je n'ai pas la moindre idée à cette question. Je ne sais pas le dire.
Mais quitte à augmenter, mais ça veut dire qu'il pourrait y avoir une pression fiscale plus importante sur les États. Est-ce que ça, c'est souhaitable?
D'abord, oui. Alors, première question, monsieur Gindre, combien de temps? C'est important que je vous dise, parce que quand je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 1 an et demi? Est-ce que c'est 2 ans? Voilà. C'est dans cette. Je pense que. Mais je ne sais pas vous dire.
Et sa pression fiscale?
Ça dépendra évidemment du plus tôt que l'on reviendra dans une normalité. Et sur la deuxième question, il y a 4 éléments pour ensuite réduire une dette. Il y a la pression fiscale, il y a l'inflation, il y a l'effacement des dettes, ou il y a la monétisation à long terme. Vous avez compris où j'étais. La monétisation à long terme.
Oui, pas pour l'effacement des dettes, ça on l'a compris. Vous avez
non, je n'ai pas dit ça. Non, mais je n'ai pas dit ça. Bon. Peut-être faudra-t-il le faire dans certains pays. Je n'ai pas dit
ça. Ah d'accord, très bien, on l'entend. Adrien Gindre.
De grands changements que vous décrivez, est-ce que dans ce monde d'après, ce jour d'après, l'Europe sera toujours en capacité d'accueillir des migrants économiques d'une part et d'accueillir des réfugiés d'autre part? Est-ce que pour des raisons à la fois économiques et sanitaires, cela va rester possible ou est-ce que là aussi, il va falloir changer?
Alors il y a un sujet évidemment dont on ne parle pas, c'est évidemment la situation des migrants aujourd'hui. Elle est évidemment, vous l'imaginez, parce que on parle de ça, et c'est bien normal qu'on en parle. Et croyez-moi, je suis comme vous, j'ai aussi des parents extrêmement âgés. Je vis ce que vivent qu'on vit tous. Hein. Donc je sais la préoccupation majeure qui est la nôtre, et elle est parfaitement légitime. Mais le monde continue à être en guerre. Le virus n'a pas stoppé les guerres. Les guerres continuent. La famine continue. La Syrie est encore un théâtre d'opération que l'on connaît. L'Irak aussi. Voilà. Et donc, ce qui a provoqué ces mouvements continue. Et je ne vous cache pas que j'ai, en tant qu'être humain, des préoccupations. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez senti pour tous nos amis africains. C'est un autre sujet. Mais aussi... pour ces camps de migrants, notamment ceux qui sont en Turquie. Ça se passe comment là-bas? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on va voir?
Donc il faut continuer à en accueillir.
Je dis simplement qu'il faut aussi, on est dans une crise humanitaire, il faut aussi l'intégrer pour ce qu'elle est, et partout. Alors maintenant, pour répondre à votre question, la réponse a été posée, et a été clairement, on a clairement répondu, les frontières de l'Europe, vous vous souvenez, on a eu une petite crise, Guillaume Roquette, il y a 4 ou 5 semaines, et notamment à la frontière grecque et bulgare. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Et notamment, nous, je fais partie évidemment du Conseil des ministres de la Défense en tant que responsable de la Défense en Europe, les frontières sont fermées. Souvenez-vous.
Et
les
frontières sont fermées. À l'être.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Alors, il y a plusieurs remarques sur la contribution solidaire qu'il peut y avoir de députés français et de commissaires européens. Patrice Carreau nous dit, vous parlez que des patrons, des sportifs, des salariés réduisent leur salaire, mais je ne vois pas des ministres, des députés européens, non. Vous ne pensez pas qu'ils pourraient, nos politiques, faire un effort en diminuant leur salaire? Est-ce que c'est votre intention? Est-ce que vous le souhaitez?
Écoutez, chacun fait ce qu'il estime devoir faire dans cette question, contribuer là où il contribue. Et je me garderai bien de donner les moindres recommandations, lignes à quiconque.
Même pour la commission.
Non, mais ce que je constate, c'est pas mon rôle d'abord, et puis vous savez, chacun contribue.
Les patrons
contribue.
L'ont fait, c'est pour ça qu'on pose la question.
Oui, les patrons l'ont fait dans un contexte très particulier, c'est-à-dire qu'on a indiqué que ceux qui versaient des dividendes, c'est-à-dire qui estimaient qu'il y avait suffisamment d'argent, ne pourraient pas avoir recours aux aides de l'État, des États, et je trouve que c'est parfaitement légitime. C'est parfaitement légitime.
Alors, autre question. Sur la boîte à outils que vous proposez pour le tracking des personnes atteintes du coronavirus...
Tracing, on va dire. Surtout pas tracking. Pas de géolocalisation.
Tracing, très bien. Disons tracing. Est-ce que un internaute sous le pseudo de Stoner craint un piratage des données avec le Bluetooth? Est-ce que vous ne craignez pas que des piratages...
Excellente question. Excellente question parce que j'ai oublié de le dire. Il y a un volet... L'internaute qui me connaît peut-être, en tout cas, voici, doit savoir que je suis aussi un fervent défenseur de la cybersécurité. Et donc, il y a un volet très important de cybersécurité avec des contraintes extrêmement fortes de cybersécurité pour éviter ça.
Donc,
dans la boîte à outils. Donc, ça figure.
Avant de revenir aux questions, il y a une question d'Adrien Gindre.
Oui, juste une petite question.
Tu peux être aussi un internaute.
Vous parliez tout à l'heure de la nécessaire solidarité. On a bien compris qu'il y avait une question de cohésion, d'union. Ce matin, le patron de La République En Marche à l'Assemblée, Gilles Legendre, évoque un éventuel report ou abandon de la réforme des retraites si ça venait mettre à mal le pacte républicain. Est-ce que vous dites que c'est un bon curseur? Est-ce qu'il faut poursuivre ou arrêter les réformes en fonction de leur effet sur la cohésion nationale?
Non, mais là encore, je ne prendrai pas position. Je constate encore une fois que chaque pays gère la situation comme il le fait, et comme il le fait, je constate que la France le fait au moins aussi bien que les autres pays européens. Croyez-moi, de ce que je vois, la France le fait au moins aussi bien, si ce n'est mieux, que beaucoup de pays européens. Mais je ne veux pas porter, encore une fois, mettre des bons points ou des mauvais points, et je ne veux surtout pas ensuite intervenir, ce n'est pas mon rôle, sur la politique nationale. Maintenant, ce que je vais dire, parce que je ne me défile jamais dans les questions, mais je suis très attaché à mes responsabilités, ce que je veux dire, c'est que nous entrons, on va rentrer, vous l'avez bien compris, on l'a tous compris, dans un monde qui sera différent, et qu'il va falloir rebâtir. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est qu'on arrive avec toutes les entreprises en vie. Et pas de casse sociale. Voilà, c'est ça mon...
Alors, les entreprises en vie...
Et derrière, on rebâtira quelque chose. Mais j'ai un mot, dont j'espère, du plus profond de moi, parce que c'est ce que je vis tous les jours, qui sort de cette crise, c'est la solidarité.
Et la solidarité, une dernière question d'un internaute, ça concerne Amazon, cette entreprise qui fait beaucoup parler puisqu'elle livre beaucoup aujourd'hui. Je suis livreur et je n'ai pas vu ma famille, nous dit Justin Gagliardini. Je n'ai pas vu ma famille depuis un mois, je suis en contact avec au moins 50 personnes par jour. Pensez aux salariés d'Amazon et aux livreurs et arrêtez de commander. Une députée communiste appelle à la fermeture partielle d'Amazon durant la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez qu'Amazon devrait aujourd'hui limiter davantage ses livraisons par solidarité avec ses salariés?
Je pense qu'il est absolument indispensable qu'une entreprise, que celle que vous venez de citer, mais que toutes celles qui continuent à aider, encore une fois, à...